VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition des 19h30, temps universel de ce 13 janvier 2020. John Lyndon à la présentation, tout d'abord les titres de cette édition. La ville de Pau en France accueille un sommet entre Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel. Les États-Unis vont réduire leur présence militaire en Afrique. Au Niger, remaniement de l'armée après la mort des 89 soldats dans une attaque attribuée à des djihadistes. Et puis Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar sont à Moscou pour formaliser le cessez-le-feu en Libye entré en vigueur dimanche. Et puis ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Bonsoir à tous. Le président français Emmanuel Macron reçoit à Pau, dans le sud-ouest de la France, ses homologues du G5 Sahel. Il avait invité les 5 chefs d'État à venir clarifier leur position sur la présence militaire française pour aider dans la lutte contre le terrorisme. J'ai joint sur place Daniel Gillet, envoyé spécial de la VOA.
Écoutez, le président Macron recherche une légitimité supplémentaire après les critiques qui s'entendent dans au Burkina Faso et au Mali auprès de la population victime de cette attaque terroriste. Ce que nous allons voir, on va parler du futur de la collaboration.
Est-ce que les chefs d'État africains vont parler d'une seule et même voix lors de ce sommet? Vous avez une idée?
Écoutez, pour l'instant, les déclarations dans la presse ont été globalement plutôt en faveur du maintien de la force Barkhane. Il n'y a pas eu trop de dissonance.
Et si la France a déjà annoncé qu'elle ne va pas retirer ses troupes du Sahel, qu'est-ce qui peut ressortir de ce sommet?
Le président Macron, le 20 décembre, quand il était à Abidjan, a dit qu'il fallait renforcer l'opération Barkhane. Il pense que c'est une affaire qui concerne tout le monde, pas que l'Afrique, aussi également l'Europe.
Et autre chose, on a vu ces derniers temps un sentiment anti-français dans beaucoup de ces pays du Sahel. Comment expliquez-vous cela et est-ce qu'on en parle là-bas?
Oui, on en parle. Donc, l'ONU a dit qu'il y avait une augmentation des attaques terroristes et bien entendu, la population locale ne comprend pas la présence de l'armée française qui a du mal à contenir ces attaques. Donc, il y a un sentiment d'insécurité et c'est l'opération Barkhane et la collaboration avec le G5 Sahel de trouver des solutions pour corriger ces problèmes.
Pendant ce temps, Washington dit vouloir réduire la présence militaire américaine en Afrique. L'annonce a été faite au sommet au moment où la France réunit les dirigeants du G5 Sahel pour tenter de resserrer le front anti-djihadiste. Le point avec Eki Abadou.
Les ressources que le Pentagone consacre à l'Afrique ou au Moyen-Orient pourraient être réduites et ensuite redirigées, a déclaré le général Mark Milley, chef d'état-major américain, à son arrivée à Bruxelles pour une réunion de 2 jours du comité militaire de l'OTAN. « Nous sommes en train d'élaborer des options pour le ministre américain de la Défense, Mark Esper », a expliqué le général Milley. Les États-Unis veulent réduire le nombre de leurs militaires déployés à travers l'Afrique au cours des prochaines années. L'armée américaine déploie par rotation en Afrique quelques 7000 soldats des forces spéciales qui mènent des opérations conjointes avec les armées nationales contre les djihadistes, notamment en Somalie. En outre, 2000 soldats de l'armée de terre mènent des missions de formation dans une quarantaine de pays africains et coopèrent avec les forces françaises de l'opération Barkhane au Mali, auxquelles ils fournissent un appui logistique.
Au Niger, au lendemain du nouveau bilan de 89 soldats tués lors de l'attaque du 9 janvier contre un camp militaire situé à la frontière malienne, le président Mahamadou Issoufou limoge le chef d'état-major des armées. D'autres responsables militaires ont été changés. On fait le point avec Abdulrazak Idrissa.
C'est un homme bien connu dans les rangs de l'armée qui prend les commandes de l'état-major général. Âgé de 57 ans, le général Salifou Modi a dirigé plusieurs unités à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Aussi, il a été membre de 2 juntes militaires, celles de 1999 et de 2010, qui ont renversé des régimes politiques nigériens. Il remplace le général Ahmed Mohamed en poste depuis 2018. Les autres changements concernent l'état-major de l'armée de terre qui a pour nouveau patron le général Seydou Badié, jusque-là responsable des ressources humaines au ministère de la Défense nationale, lequel ministère a aussi un nouveau secrétaire général en la personne du général Didier Amadou qui remplace c'est notre général Wally Karingama. Enfin, le général Sidikou Issa, qui était jusque-là le chef d'état-major de l'armée de terre et promis inspecteur général des armées. Ces limogeages et remplacements interviennent au lendemain du lourd bilan de l'attaque de Chinegodère le 9 janvier dernier, dans laquelle 89 soldats sont décédés. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Le chef d'une faction dissidente du principal parti d'opposition du Mozambique a réitéré ce lundi ses menaces d'attaquer des convois civils pour dénoncer l'investiture dans deux jours du président Filipe Nyusi pour un nouveau mandat. Depuis plusieurs mois, les routes du centre du pays ont été le théâtre d'une série de raids armés visant des véhicules civils qui ont fait plus d'une dizaine de morts. Une partie de ces attaques a été revendiquée par un groupe de combattants de la RENAMO, le principal parti d'opposition. Trois enseignants ont été tués et un enlevé lundi dans l'est du Kenya par des présumés militants islamistes des Shebab qui ont en outre partiellement détruit un pylône de télécommunication et mis le feu à un poste de police. Depuis le début de l'année, les Shebab ont intensifié leurs attaques dans l'est du Kenya à proximité de la frontière avec la Somalie et la police kenyane est en état d'alerte maximale. Au moins trois personnes sont mortes et une dizaine ont été blessées vendredi dans le sud de la Centrafrique dans des combats opposant des militaires à des membres d'un groupe armé signataire d'un accord de paix conclu avec le gouvernement il y a un an. Il y a eu un accrochage entre les membres des forces armées centrafricaines et ceux de l'unité pour la paix en Centrafrique dans la ville d'Alindao. C'est ce qu'a déclaré ce lundi Vladimir Montero, porte-parole de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Les deux principaux belligérants du conflit libyen sont arrivés ce lundi à Moscou, où ils devaient négocier pour signer un accord formel de cesser le feu entré en vigueur la veille. Abdourahmane Dia.
Oui, John, il faut dire qu'un certain progrès a été obtenu ce lundi à l'issue de négociations à Moscou destinées à signer un accord formel de cessez-le-feu en Libye entre les deux chefs belligérants. C'est ce qu'a annoncé le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Les négociations impliquant les délégations entre les deux camps, qui ont duré environ 7 heures, ont été chapeautées par les ministres turcs des Affaires étrangères et de la Défense et leurs homologues russes, Sergei Lavrov et Sergei Shoigu. Aucune rencontre physique entre le chef du gouvernement libyen reconnu par l'ONU, Fayez al-Sarraj, et l'homme fort de l'Est, le maréchal Haftar, arrivés tous deux à Moscou, n'a cependant eu lieu, selon le président du Conseil d'État libyen basé à Tripoli, Khaled el-Sherri. Un certain progrès a été obtenu, s'est félicité M. Lavrov, lors d'une conférence de presse avec son homologue turc à l'issue des négociations. Fayez al-Sarraj a mis sa signature sur l'accord alors que le maréchal Haftar a demandé un peu de temps supplémentaire jusqu'à demain matin pour réfléchir, a-t-il précisé. M. Haftar considère ce document de manière positive, a toutefois affirmé M. Lavrov.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a assuré dimanche dans une interview télévisée disposer d'assez de preuves pour destituer le président Donald Trump à la veille d'une semaine cruciale dans la perspective de l'ouverture au Sénat du procès du président des États-Unis. Dans un tweet, Donald Trump a estimé que l'affaire devrait être close sans procès, déclarant que toute procédure au Sénat apporterait une crédibilité indue à ce qu'il considère comme une chasse aux sorcières. Les États-Unis ont placé lundi sur une liste noire 7 membres du gouvernement vénézuélien du président Nicolas Maduro, à qui ils reprochent une tentative infructueuse de prise de contrôle du Parlement. Dans un communiqué du secrétaire d'État au Trésor, Washington accuse ces personnes d'actions visant à ébranler la démocratie. La démocratie dont le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, cité dans le communiqué, précise que les sanctions à leur encontre pourraient être retirées s'ils se rangeaient aux côtés du peuple vénézuélien et de Juan Guaido, le chef de l'opposition reconnu comme président par intérim du Venezuela par une cinquantaine de pays, dont les États-Unis. Et puis, politique américaine toujours, le sénateur Cory Booker a abandonné ce lundi la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine de novembre, citant un manque de financement. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
La Guinée équatoriale ajoutera 20 000 barils de pétrole par jour d'ici octobre en raison de nouvelles découvertes pétrolières, a déclaré Gabriel Obiang Lima, ministre des Mines, de l'Industrie et de l'Énergie. La construction de deux raffineries qui devraient traiter jusqu'à 40 000 barils par jour devrait commencer d'ici la fin de l'année. Un nouveau cycle d'appels d'offres pour 4 à 5 blocs d'exploration sera lancé en avril. Le ministre des Finances du Zimbabwe, Mthuli Ncube, affirme que le PIB du pays va augmenter de 3% en 2020 malgré les faibles pluies qui ont endommagé les cultures et les coupures d'électricité persistantes qui ont frappé les mines et l'industrie. L'économie qui s'était contractée de 6,5% en 2019 rebondira grâce à l'amélioration de la production agricole et minière, même si certains analystes sont sceptiques. Pour terminer, en Afrique du Sud, Massmart pourrait supprimer 1440 emplois dans un plan de fermeture de plus de 30 magasins sous-performants. Le détaillant a déjà entamé des consultations avec les syndicats. En deux décennies, Massmart, détenu majoritairement par le géant américain Walmart, a connu sa première perte au premier semestre en août dernier. La faible croissance, le chômage élevé et la hausse du coût de la vie ont contribué à rabaisser le pouvoir d'achat des Sud-Africains.
Et nous voici en sport avec Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par l'athlétisme. Le procès de Lamine Diack est renvoyé pour des problèmes de procédure.
Oui, le procès de l'ancien président de la Fédération internationale s'est ouvert lundi par une demande immédiate de renvoi présentée par le parquet national financier français. Le Sénégalais Lamine Diack et son entourage soupçonnés d'être au cœur d'un système de corruption pour couvrir des cas de dopage d'athlètes russes étaient jugés par la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris depuis ce lundi. Mais le parquet national financier a demandé un renvoi immédiat en raison des problèmes de procédure. La demande a été acceptée et le procès renvoyé au moins jusqu'au mois de juin.
Autre actualité sportive, la phase de poule de la Coupe de la Confédération.
Oui, le Joliba Athletic Club de Bamako a été tenu en échec à domicile par le Oroya AC de la Guinée-Conakry sur le score de 0 but partout. C'est une confrontation jouée hier dimanche 12 janvier au stade du 26 mars de Bamako. Malgré ce match nul, le coach du Joliba se réjouit. Kwadio George est au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Nous avons fait un match de bon niveau. Nous avons été présents. Nous avons eu des occasions, des situations. Mais la jeunesse de l'attaque n'a pas permis de pouvoir avoir le geste décisif, le geste juste pour pouvoir marquer le but. Ces jeunes gens-là ont donné tout ce qu'ils pouvaient. C'est leur capacité et ils pouvaient faire mieux, mais ils ont donné le maximum. Je pense que le prochain match, ils vont mieux faire.
Et pour le coach du Oroya AC, à défaut d'une victoire, accrocher le Joliba à domicile n'est pas mauvais en soi. Lamine Diack est au micro de Siaka Traoré.
Un match très engagé, un gros défi physique qui nous était proposé. Je pense qu'on a répondu à ce niveau-là. Et on a essayé aussi à tout moment de poser le jeu quand on pouvait. C'est créé pas mal d'occasions. Malheureusement, par manque de lucidité et de discernement, on n'a pas fait le bon geste, le dernier bon geste. Ce qui a gardé notre adversaire en vie, parce que je pense qu'on a eu des balles pour tuer ce match-là. Ceci dit, le match nul est mérité, largement même.
Toujours en Coupe de la CAF, Bagassi, on connaît le premier qualifié.
Oui, c'est Pyramide FC, le club égyptien vainqueur 2-0 contre son compatriote Al-Masri, qui a validé donc son billet pour les quarts de finale dans ce groupe A. Enugu Rangers du Nigeria et FC Nouadhibou de la Mauritanie se sont neutralisés au Nigeria par un score d'un but partout. Et puis suite à leur match nul 0-0 au Mali contre le Joliba, les Guinéens d'Oroya devront également patienter même s'ils conservent la tête du groupe C avec 3 points d'avance sur leur adversaire du jour et sur les Libyens d'Al-Nassri qui se sont imposés 2-1 face aux Sud-Africains des Bidvest Wits.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Lyndon en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Bien avant le sommet de Pau dans le sud-ouest de la France, le sentiment contre la présence militaire française au Sahel a fait beaucoup d'adeptes. Au Mali, pour marquer les 7 ans de l'intervention française le 10 janvier 2013, des associations ont organisé une grande manif à Bamako pour dénoncer le départ des forces françaises. Au Burkina voisin, le syndicaliste Bazier Bazolma appelle au retrait des troupes françaises. Comment expliquer ce sentiment anti-français? Iris Fall a joint Dr Younoussa Touré, directeur de recherche à l'Université de Bamako et rédacteur en chef de la revue Études maliennes.
Premièrement, je pense que les gens avaient effectivement compris que Barkhane, notamment, parce que Cherval avait déjà fait son travail, les gens pensaient que Barkhane venait effectivement pour lutter contre le terrorisme. Les gens ont plutôt le sentiment que cette lutte n'a pas donné des résultats escomptés. Avec les réseaux sociaux qui relaient de souvent des intox, on pense souvent, voilà, Barkhane, ils ont quitté cet endroit et puis le lendemain, il y a eu que la tata. Donc les gens se sont mis un peu à douter de la véritable volonté de combattre le terrorisme. À tort et à raison, il donne en tout cas une certaine puissance à la France, pensant que si la France avait voulu, elle aurait pu. Il y a aussi une montée de sentiments contre les pouvoirs en place.
Les pouvoirs en place qui sont très souvent soutenus par la France.
C'est ce que les gens pensent. La France est surtout là pour tenir le pouvoir. Et compte tenu de la qualité de la gouvernance, des résultats et du malaise général qui se développe, on pense que si ce n'était pas la France, ces pouvoirs-là auraient pu dégager. J'ai le sentiment que la France est en train aussi de soutenir à peu près des gens qui n'ont plus de légitimité. Mais à partir de là, les activistes ou certains idéologues plus ou moins opposés, partis politiques et politiciens, ont fait une sorte de guerre par procuration à la France.
C'est l'intervention française qui a arrêté l'offensive du Moujao en 2013. Des Français ont perdu aussi des soldats au Mali.
Mais bien sûr, cela, là, les Maliens, je pense, avaient aussi exprimé leur reconnaissance par rapport à ça. Vous pouvez vous souvenir de l'arrivée de Hollande, de l'ambiance qui a été à l'occasion de cette arrivée, qui a même poussé Hollande à dire que c'était un des jours les plus heureux de sa vie. Mais on a eu le sentiment que le travail n'est pas achevé, que la France était un peu derrière la rébellion, c'est pourquoi il a demandé de ne pas aller à Kidal.
Les rebelles ont battu à plate couture l'armée malienne pendant la fameuse visite du premier ministre Moussa Mara. Les Français n'étaient pas mêlés.
Dans la mesure où les gens pensent que certains Français ont dit que les Touaregs étaient leurs amis. Donc ça donne l'idée aux gens que bon, si les collègues ont cette force, et qui sont peut-être soutenus par la France. Et c'est des représentations que les gens auraient pu se faire en fonction des réalités du terrain. Un ministre français dit que les rebelles sont leurs amis, donc si les rebelles font quelque chose, on pense que c'est parce qu'ils ont eu le soutien de leurs amis. C'est tout cela entremêlé, surtout la crise économique, la crise de l'emploi des jeunes, et tout cela mis ensemble amène les gens à se révolter contre celui qu'on croit être vraiment des soutiens, ceux qui sont en train de profiter de cette crise-là.
Le docteur Younoussa Touré, directeur de recherche à l'Université de Bamako et rédacteur en chef de la revue Études maliennes.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Sénégal, des cas d'urgence non pris en charge convenablement sont souvent décriés par les patients et leurs accompagnants. Et pour y remédier, le ministre de la Santé a pris des mesures. Notre correspondante, Sédina Abagué, a fait un tour au centre hospitalier universitaire de Fan, l'un des plus grands hôpitaux du pays, pour voir si la prise en charge des cas d'urgence est optimale.
À l'hôpital de Fan, le service des urgences tourne à plein régime tout au long de la journée, mais cela n'empêche pas les blouses blanches de prendre en charge les patients de la meilleure des manières. Au chevet de sa mère malade, Ndaï nous explique comment celle-ci a été prise en charge dès son arrivée.
Je peux dire que la décision du ministre a été appliquée à la lettre ici, parce que moi j'ai une patiente, ma maman est hospitalisée au service neuro, mais on est venu le 31 décembre, c'était un mardi, on l'a prise en charge, on a fait les premiers soins et vraiment on nous a pas demandé d'argent. C'est après son hospitalisation, 12 jours après qu'on m'a appelé dans le bureau du major pour me demander une caution. C'est juste l'IRM qui a nécessité qu'on se déplace, parce qu'ici, la machine pour l'IRM est en panne. On était parti à la clinique du Cap pour faire l'IRM là-bas et c'est l'ambulance qui nous a amenés.
Pour d'autres, l'expérience a failli tourner au drame. Karambay raconte comment il a attendu des heures avec son ami malade avant d'être convenablement pris en charge.
Quand nous étions venus vers les 5h du matin, mais on a attendu jusqu'à 9h pour que le service commence le travail. Alors on a attendu encore jusqu'à 13h pour être accueilli, faire un scanner. Après le scanner, il n'y avait pas beaucoup de suivi. Alors vu que notre patient était en train de trembler, on a allé appeler le médecin. Il a dit que il a une certaine fièvre. On l'a donné des perfusions. Après, on nous a dit que il doit être hospitalisé sur maladie infectieuse. Vu que donc son paludisme était un peu aggravé, ce qu'on appelle en médecine neuropathie. Alors je pense que cela c'est un manque de suivi, parce que si nous n'avions pas constaté son tremblement et son température qui est en train d'augmenter, c'est nous qui n'aurions pas dû payer les pots cassés.
Les structures sanitaires font ce qu'il faut, mais certains accompagnateurs sont souvent en état de choc et ne parviennent pas à s'organiser comme il faut. C'est du moins l'avis de Amadou Lamine Fall, chef du service de la communication et de l'information du centre hospitalier universitaire de Fan.
Non, la population, pour la plupart du temps, quand tu as un malade, tu es effaré, n'est-ce pas, égaré, etc. C'est normal. Ils viennent, n'est-ce pas, à la première structure, n'est-ce pas, dont tu penses. Il appartient, n'est-ce pas, à arriver à l'urgence. Si l'urgence n'est pas directement impliquée par Fan, le médecin le voit, le conditionne, le met dans l'ambulance pour le rentrer dans la structure, n'est-ce pas, habilitée à le prendre. Mais la population ne peut pas les critiquer parce qu'ils ne savent pas, pour l'essentiel. Il est vrai que la sensibilisation doit se faire de manière, n'est-ce pas, à expliquer, quoi, davantage, n'est-ce pas, quelle urgence, n'est-ce pas, et puis, n'est-ce pas, par tel hôpital. Mais dans tous les cas, quelle que soit la sorte d'urgence, il peut être pris, n'est-ce pas, par n'importe quel hôpital.
Dorénavant, le ministère de la Santé oblige les hôpitaux à prendre en charge prioritairement les malades qui arrivent en situation d'urgence. Faute de place ou de conditions de prise en charge optimales, le patient devra être référencé et évacué en ambulance vers une structure sanitaire qui pourra s'assurer de sa prise en charge à l'arrivée. À Dakar, Sedina Bagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Congo-Brazzaville, Jean-Jacques Serge Yombi Opango, un ancien partisan du président Denis Sassou Nguesso, appelle l'opposition à se mettre ensemble pour choisir un candidat unique aux élections de 2021. Comment cette idée a-t-elle été accueillie au sein même de l'opposition qui ne s'est pas encore remise de ses divisions de la dernière présidentielle? Élément de réponse dans ce reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Pour Jean-Jacques Serge Yombi Opango, 2021, c'est déjà maintenant. Il faut que les opposants parlent d'une seule voix et choisissent un candidat unique pour cette élection présidentielle. Et qu'est-ce qui fonde la foi du vice-président du RDD?
Dans la situation actuelle, aller aux élections, justement, si nous ne sommes pas un, si nous ne désignons pas un candidat, ça va être de l'aventure pure d'aller s'affronter à ce pouvoir qui a tout en main. Et ils ne changeront rien parce qu'eux, ils n'ont pas envie de changer les choses, ils veulent rester au pouvoir. Si nous loupons le coche cette fois-ci, ce pouvoir, ce système inique va rester au pouvoir plus de 100 ans. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on stoppe le peuple congolais qui est dans la misère, le peuple congolais qui, en fait, en a strictement marre de ce système, le peuple congolais qui veut le changement. C'est ça qui me donne de l'espoir. Et au moins, le peuple congolais, lui, ne nous trompe pas.
Dans le camp de l'opposition constitutionnelle, Armand Pourou de la Dynamique pour le développement du Congo réagit.
Nous disons que ça peut être possible, hein, puisque nous sommes les hommes. Mais peut-être que nous analysons la vie politique congolaise, nous avons encore les questions de haine, de jalousie, où c'est un peu difficile qu'un homme supporte l'élévation de l'autre. Il faudrait qu'on travaille un peu ce niveau, l'humilité. Mais sinon que pour l'instant, nous sommes encore un peu hésitants.
En fait, les opposants congolais se sont déjà mis ensemble entre 2015 et 2016 à travers un fonds contre le référendum constitutionnel et la réélection de Denis Sassou Nguesso. Mais là, l'échec a été retentissant. Paul-Marie Pouillet était alors coordonnateur de ce front, le FOCAD.
Il y avait trop d'ego, il n'y avait pas un projet commun, il y avait trop de suspicions. Et chacun voulait en réalité se la jouer solo pour être le partenaire privilégié du pouvoir. Je crois que c'est ça qui n'a pas marché. En tout cas, ça, je fais une critique en tant que coordonnateur.
Analysant les possibilités de l'opposition congolaise de se mettre d'accord d'ici 2021, l'universitaire Vivien Manangou reste pessimiste.
S'oppose-t-il au président Sassou ou s'oppose-t-il simplement au fait que le RDD aujourd'hui ne soit pas dans une situation de gouvernance? Et donc, nous savons très bien que l'opposition ne se réunira pas parce que l'opposition n'a pas de fil conducteur. Pour que l'opposition se réunisse, il faut un fil conducteur qui peut être idéologique. Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'idéologie. Donc, l'opposition ne se réunira pas tant que ça sera simplement des appétits personnels. Donc, voilà, l'appel de M. Yombi, ce sera comme un coup de pied dans l'eau, évidemment.
À l'instar de Jean-Jacques Yombi Opango, qui réclame une réelle gouvernance électorale avant le prochain scrutin présidentiel, Pascal Satima Diala, le chef de file de l'opposition, avait même demandé que le président Sassou Nguesso reste au pouvoir au-delà de 2021, le terme de son premier mandat. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
De l'autre côté du fleuve, en République démocratique du Congo, où plus de 50 ménages se retrouvent sans abri à Bukavu, rendons-nous donc de ce côté-là, c'est la conséquence des fortes pluies qui se sont abattues le week-end dernier. On parle de 11 morts à la suite des éboulements. Les précisions d'Ernest Mouhiro, notre correspondant sur place.
C'est une pluie qui a duré plus de 3 heures l'après-midi du samedi dernier. Les artères de la ville se sont transformées en étendues et chutes d'eau. La circulation était devenue quasi impossible face à la pression de l'eau. Dans plusieurs avenues des trois communes de la ville de Bukavu, la terre a cédé, faisant effondrer des maisons. Un rescapé qui a requis l'anonymat témoigne.
Nous sommes dans un état vraiment un peu catastrophique, un état vraiment qui n'est pas à supporter. Vous voyez, il y a eu des érosions, il y a eu des gens qui sont gravement blessés, que même la route aussi. S'il y a une partie qui est partie de la route, donc c'est compliqué ici.
Selon des sources au sein de la société civile et chefs des quartiers frappés par les éboulements, au moins 11 personnes sont décédées à Ibanda, Kadutu et Bagira et plusieurs familles sont sans abri. Christine Azanga, chef des quartiers Nkafu, confirme les dégâts dans sa zone et invite les populations à évacuer les maisons fissurées pour éviter d'autres morts en cas de nouvelles pluies.
La pluie a pris beaucoup de temps. Il y avait beaucoup de dégâts, des parcelles sont parties, des maisons sont partis. Nous avons enregistré 2 morts, les enfants d'une même famille. C'était juste après la pluie que la maison s'est écroulée sur ces 2 enfants. Aussi, nous demandons à toute population qui habite les endroits déclarés déjà fissurés d'évacuer sans délai, d'obtempérer à la mesure qui a été prise par les autorités dans le souci de sauver les vies humaines.
Selon dit, la désolation était bien visible sur les visages des sans-abri jusqu'alors non assistés. Le président de la société civile de Kadutu, Hippocrate Maroumé, qui leur a rendu visite, lance l'alerte.
C'est une population qui est frustrée et n'a aucune assistance parce qu'une fois la maison partie, les membres de la famille décédés, vous êtes dans une situation inconsolable. Nous en profitons aussi pour alerter et mettre en garde les services qui octroient la terre, de voir dans les possibles comment mettre de l'ordre dans ces services-là pour que demain nous ne puissions plus assister à ce genre de décès. Mais aussi, nous en appelons encore une fois de plus à la population d'être vigilante, surtout en ce qui concerne l'achat de parcelles. On doit s'informer davantage sur la topographie du sol, sur l'historique de l'endroit où on veut acheter.
Le week-end passé et même toute la journée de ce lundi, des jeunes s'activent pour tenter de dégager les décombres et récupérer ce qui peut l'être. Debout qu'à vous, Ernest Mouero pour VOA Afrique.
Me vivo muerto.
Et c'est avec Doumba du groupe Ex-Maléa, une sélection de Max Firmin, Koyaweda, qu'on se quitte. Max qui assurait la mise en onde de cette édition réalisée par Tia Wang. John Lyndon était à la présentation de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique. Bonsoir.
Bienvenue à bord.